RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis, avec Melchior Gormand.
Les élections européennes approchent et de plus en plus d'analystes prévoient une vague de populisme. Mais que recouvre précisément ce terme qui désigne une opposition du peuple et des élites? Est-ce qu'il faut empêcher cette vague et au nom de quoi? C'est ce qu'on va étudier ce matin avec nos invités. Notez que dans la seconde partie de l'émission, on quittera l'espace politique pour voir comment le champ artistique, lui, s'est emparé de la question de la participation de tous pour donner à chacun la possibilité de pouvoir s'exprimer sur scène, dans la rue, dans les tiers-lieux. Le terrain artistique s'ouvre à tous et la culture populaire. Rendez-vous à 10h. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Qu'est-ce que c'est pour vous le populisme? Est-ce qu'il vous fait peur? Est-ce que vous comprenez son succès? Et que pensez-vous d'ailleurs de la religion quand elle est utilisée à des fins électorales? Et enfin, redoutez-vous la montée des extrêmes? 04 72 38 20 23 pour participer par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et comme tous les mercredis avec Madeleine Vatel. Bonjour Madeleine.
Bonjour Melchior, bonjour à tous. Oui, à chaque fois que des élections approchent, il est question d'une montée, d'une vague de populisme. Et on parle même aujourd'hui d'un phénomène populiste. Alors de quoi s'agit-il? Parce que si le populisme est lié au pouvoir du peuple, alors quelle différence avec la démocratie? Et qu'est-ce que le populisme vient menacer lorsqu'il arrive au pouvoir? Nos invités d'aujourd'hui vont nous aider à mieux comprendre comment le populisme, c'est la culture de la défiance. Et ça passe par le rejet des élites politiques, économique, intellectuel, par le rejet de l'étranger et puis son corollaire, c'est-à-dire une forte critique à l'égard de l'Europe, à l'égard de Bruxelles, qui volerait d'une certaine façon le pouvoir aux citoyens de chacun des pays. Alors qu'est-ce que ça change lorsque les populistes sont au pouvoir? Est-ce que c'est un phénomène qui peut durer dans le temps? Eh bien c'est ce que nous allons voir ce matin, Melchior.
Et pour en discuter jusqu'à 10h, Madeleine, on a le plaisir d'accueillir trois invités.
Avec nous, Benoît Hervieux-Léger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, chef de rubrique de la revue Projet. Merci au studio de Radio Notre-Dame qui vous accueille. Avec nous également Sylvain Schirmann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur, professeur émérite à l'Université de Strasbourg, professeur invité au Collège Europe de Bruges et ancien directeur de Sciences Po Strasbourg. Vous êtes dans le studio alsacien avec Martial Libera, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'IUT Robert Schuman de l'Université de Strasbourg. Vous enseignez également au département information communication de l'IUT Robert Schuman et vous êtes titulaire de la chaire Jean Monnet information, désinformation et construction européenne. Approche historique, on va le voir, c'est lié avec le sujet d'aujourd'hui. Martin et Sylvain, vous venez de publier un ouvrage que vous avez coécrit intitulé « Idées reçues sur l'Union européenne ». C'est publié aux éditions Le Cavalier Bleu et on va commencer ensemble un tour de table d'abord, mais simplement pour dire ce qu'est le populisme, pour mieux le comprendre. Martin Libera, comment est-ce que vous définiriez le populisme? Je vous donne la parole en premier. Grande question, mais c'est vrai qu'il faut qu'on comprenne qu'est-ce que c'est exactement le populisme, en quoi c'est différent de la démocratie, en quoi c'est différent de ce qui est populaire, en quoi c'est particulier.
Martial, hein, le prénom.
J'ai dit
Martin,
Martial.
Vous avez dit
allez.
Martin, mais
ah
c'est
ouais,
Martial.
Martial.
Martial. Martial.
Allez, Martial.
Oui, merci. Alors, je crois d'abord, c'est difficile de définir le populisme. Contrairement, c'est pas une idéologie. C'est pas comparable à une idéologie. C'est un phénomène qui est un phénomène mouvant, qui varie au fil du temps. Les formations politiques qui se réclament du populisme ne peuvent pas non plus être facilement, rangées, soit à gauche de l'échiquier politique, soit à sa droite. Elles sont souvent transversales. En termes de programme politique, il y a certes un populisme de droite qui émerge, qu'on appelle le national-populisme, et un populisme de gauche, qu'on appelle le social-populisme. Mais parfois, dans les programmes, il y a des formes de syncrétisme, c'est-à-dire que ces formations empruntent à gauche et à droite. Donc, il y a une vraie difficulté à définir le populisme. Je rajoute peut-être encore deux, trois petites choses qui sont intéressantes. C'est que on a, nous... les yeux rivés sur le présent et sur les élections à venir. Mais le populisme est ancien. Il y a eu quatre grandes vagues de populisme au fil de l'histoire. Une première à la fin du 19e siècle, en Russie, aux États-Unis, qui est au fond une réaction à l'industrialisation, un réflexe de protection. Et ensuite une deuxième grande vague de populisme que l'on connaît, qui est celle de l'entre-deux-guerres, où finalement la guerre suscite des frustrations aussi bien chez les vainqueurs que chez les vaincus, ce qui amène ensuite le développement des mouvements fascistes, autoritaires, nazis. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, on l'oublie, dans un premier temps, il y a aussi une vague de populisme qui se développe beaucoup en Amérique latine avec le péronisme, mais aussi beaucoup dans les États qui obtiennent leur indépendance dans le cadre de la décolonisation. Et là, il s'agit d'un populisme un peu différent de celui que l'on a aujourd'hui, qui correspond à la quatrième vague qui s'est beaucoup développée après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Autre différence, je le disais à l'instant, il y a aussi une grande différence entre le populisme du Nord, enfin des pays occidentaux, et le populisme du Sud. Dans le populisme du Nord, au fond, on est dans un populisme de protection. Et dans le populisme du Sud, on est dans un populisme d'émancipation par rapport à une tutelle coloniale ou par rapport à l'emprise de pays occidentaux. Alors vous allez me dire, beaucoup de différences. Y a-t-il des traits communs ? Alors les traits communs sont eux aussi multiples. Je crois qu'il y a un premier trait commun qui renvoie à ce qui a été dit en introduction, c'est l'importance du peuple. L'importance du peuple qui constitue la base du populisme. Et il y a aussi un deuxième acteur qui est très important dans le populisme, c'est le chef.
Alors, si vous dites l'importance du peuple, par exemple, si on s'arrête sur ce point-là, l'importance du peuple, en quoi ça pourrait être gênant ou en tout cas, pourquoi est-ce que ça tiraille un peu de dire que le peuple aurait la première place ? Qu'est-ce qui est gênant ?
J'ai pas dit que c'était gênant, hein. Je dis juste que voilà, quand on essaie de
réfléchir.
Non, mais
aujourd'hui, le populisme, c'est critiqué justement, ça pose question. Alors pourquoi
Mais c'est pas critiqué à cause du peuple. Enfin, c'est le fondement même de la démocratie, le peuple.
Voilà. Alors, ce qu'on aimerait comprendre, c'est quelle est la différence justement entre le populisme et la démocratie. Peut-être, Sylvain Schirmann, vous souhaiteriez compléter cette réponse. Si on s'arrête vraiment là sur cette question, populisme, populaire, peuple, démocratie, où est la différence ?
En fait, on avait l'habitude de fonctionner on a toujours l'habitude de fonctionner dans les démocraties occidentales sur l'idée d'une démocratie représentative. C'est-à-dire que la population désigne ses représentants et les mandate pour légiférer, les mandate pour mener les politiques publiques. Et l'idée du populisme telle qu'elle s'exprime, c'est que je passe au-dessus de la représentativité pour m'adresser directement au peuple, dont j'exploite les émotions immédiates. Et je les exploite vers ou pour une finalité qui n'est pas celle qui est nécessairement celle d'une approche démocratique des questions politiques. Et donc je fais fi un peu de cette idée d'une démocratie représentative sur laquelle reposait tout la vie politique occidentale, au moins depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, à partir de là, je peux apporter, c'est le but de la manœuvre, à travers une vie politique marquée par le slogan, des réponses simples à des questions complexes, et vous faire croire que ces réponses simples sont la solution idoine pour régler un monde ou des problèmes d'un monde qui sont des problèmes extrêmement difficiles. Et c'est le cas dans la construction européenne. La construction européenne est un phénomène protéiforme, multiforme, complexe, d'équilibre de pouvoir. Or, la démocratie représentative, elle permet de réguler à l'échelle européenne toutes ces questions. Puisque les partis vont chercher les équilibres, les institutions vont chercher les équilibres, et le populisme vous dit mais vous êtes où dans ce dispositif ? Vous êtes écarté par une forme d'élite. Vous ne pesez pas. Et donc, moi, je vais vous représenter directement. Et je vais vous dire, les résultats sont simples. Il y a un complot d'élite qui permet l'immigration. Il y a un complot d'élite qui permet la perte de souveraineté. Donc, moi, je vous redonne, en quelque sorte, une forme de pouvoir.
Est-ce qu'on
Mais
peut dire
réalité,
que le populisme
c'est je prends le pouvoir.
Ouais. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que le populisme a pu faire sa place parce que, en quelque sorte, la démocratie s'est mal défendue? Est-ce qu'on pourrait dire ça? Ou en tout cas, a mal communiqué, ou est sorti, n'a pas tenu compte aussi de l'émotion dans la politique. Effectivement, une grande part est donnée à la raison, de fait, de penser un gouvernement, de penser une politique. Et là, on a des personnes qui arrivent, des chefs politiques. Vous alliez dire, Martial, vous alliez vous arrêter sur ces chefs qui parlent autrement au peuple.
Oui, mais le populisme se nourrit fondamentalement de crise. Alors ça peut être, comme vient de le dire Sylvain Schirmann, la crise de la représentation, ça peut être la crise des partis politiques, mais en général, le populisme se nourrit et prend une part importante dans la vie politique quand la crise est multiforme, protéiforme, c'est-à-dire quand, en plus de cette crise de la représentation, vous avez une crise économique et sociale qui crée des frustrations, qui crée des problèmes, et quand vous avez aussi... toute une partie de la population qui se sent frustrée, déclassée, non représentée. Et donc c'est l'addition de l'ensemble de ces crises qui permet en général l'éclosion des mouvements populistes. Et à ce moment-là, ils deviennent audibles. En temps, j'allais dire, lorsque dans les 30 glorieuses en France, on n'a pas quasiment de mouvements populistes qui émergent, ou ils sont à la marge. Ils deviennent centraux à partir du moment où cette crise s'installe durablement dans les sociétés et à partir du moment où les partis politiques classiques, puisque les populistes se mettent toujours, en tout cas au départ de leur existence, comme hors système, ils sont anti-système.
Anti-système, oui.
Ils deviennent là très importants lorsque la crise s'enquiste et que des solutions ne sont pas apportées. C'est ça leur moteur.
Benoît Hervieux-Léger, justement, on voudrait vous entendre sur cette question du anti-système, du hors-système, du anti, quelque part, de cette défiance dont on parlait en début d'émission, d'émotion aussi. qu'est-ce que vous diriez sur le populisme comme pouvant exister en opposition à ce qui prévaut?
Si vous voulez, à la fois effectivement en opposition et en même temps comme correctif. Et Martial Libéral disait au début avec justement des exemples historiques comme les Narodniki russes, avec le People's Party américain. De la même manière, l'Amérique latine que je connais un peu avec le varguisme. Enfin, j'ai tout lu Vargas au Brésil ou Juan Perón en Argentine ou plus près de nous, Hugo Chavez. Avec effectivement quelque chose qui est alors très intéressant parce que souvent, si vous voulez, vous rendez compte que le populisme, ce qu'on appelle le populisme, alors c'est là que j'ai du mal avec ce mot qui est quand même très attrape-tout, mais c'est-à-dire qu'il va vouloir corriger un certain nombre de tendances avec une certaine immédiateté, c'est-à-dire que il y a peut-être un trait commun qu'on retrouve, on va dire, dans tous ces mouvements, dans toutes ces expériences politiques qu'on a qualifiées de populistes. Je dirais que c'est un peu le tout de suite. C'est-à-dire qu'on va aller vite et on va effectivement essayer de passer par-dessus le système ankylosé, mais sans forcément l'éliminer complètement. Par exemple, je trouve que l'exemple d'Hugo Chavez était tout à fait éclairant, c'est-à-dire que le même Hugo Chavez n'a pas, il a fait voter une nouvelle constitution en 1999, il a toiletté les institutions, c'est-à-dire qu'on est passé à un parlement monocaméral, et puis à côté de ça, se créent les missions dans les barrios, les conseils communaux, etc. C'est-à-dire, en fait, des espèces de modules de démocratie directe, où effectivement, la personnalité charismatique fait corps avec le peuple, mais à concurrence aussi des institutions classiques qui demeurent, et en fait, ça devient problématique le jour où ces institutions-là sont dévoyées, effectivement, au service du seul. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a tendance à qualifier le populisme un peu à contre-temps, c'est-à-dire au moment de la dérive, au moment où la dérive est vraiment caractérisée et où en fait on bascule déjà vers quelque chose qui est plus de l'ordre du totalitarisme ou de la dictature. Voilà.
On parle du populisme, vous l'entendez ce matin dans Je pense donc j'agis, vous êtes les bienvenus pour participer à cette émission, pour réagir. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs pour vous le populisme? Est-ce qu'il vous fait peur? Est-ce que vous comprenez son succès? Et puis que pensez-vous également de la religion quand elle est utilisée à des fins électorales? Est-ce que vous redoutez plus généralement la montée des extrêmes? 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr.
Je pense donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Madeleine Vatel, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et toujours avec nos trois invités jusqu'à 10h, Benoît Hervieux-Léger, Sylvain Schurman et Martial Libéra. Mathieu nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Vous êtes à Rennes, on vous écoute.
Oui, alors en fait, c'est Golden Royal était populiste. Et en fait, on cache les partis réellement populistes actuellement parce que des partis, en fait, il y a besoin de réindustrialiser la France, il y a besoin de passer à une monnaie publique, il y a besoin de faire le ménage dans les banques, et ça on n'en parle pas à la télévision. Et du coup, les partis populistes qui proposent ça, on les cache depuis un bon bout de temps, depuis Cheminade. Donc voilà quoi.
Vous dites que Ségolène Royal était populiste. Je me permets de vous demander, Mathieu, qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Elle le revendiquait. Mmh. Elle le revendiquait, c'est-à-dire qu'en fait, son programme était orienté pour le peuple. Mmh.
Eh ben merci beaucoup Mathieu pour votre appel dans Je pense donc j'agis. Benoît Hervieux-Léger, je vous ai vu un peu sourire en écoutant Mathieu. Qu'est-ce que vous en pensez de son commentaire?
Je trouve que c'est intéressant parce que c'est assez justement à l'image d'un discours qui Mathieu n'a pas l'air mal à l'aise forcément avec la notion de populisme quand il dit enfin orienté vers le peuple. Bien sûr, tous les partis, tous les leaders politiques ont vocation ou presque à être orientés vers le peuple. Bon, Ségolène Royal. Alors, le cas de Ségolène Royal était assez intéressant parce que effectivement, il y avait, on va dire peut-être, alors bon, même si on la rangerait pas dans la catégorie populiste, mais qui n'est pas vraiment une catégorie, il y avait quelque chose, effectivement, de très centré sur la personnalité de la candidate, mais bon, c'est aussi le jeu des institutions de la Ve République, avec la personnalisation très forte du scrutin présidentiel. Bon, sachant que ce qui est aussi assez compliqué, c'est que dans le cas de Ségolène Royal, on peut pas dire que son parti, le Parti Socialiste dont elle était issue, l'ait énormément soutenue. C'est-à-dire qu'elle avait à la fois besoin de cet appui. Et puis malgré tout, on sentait que le soutien était quand même pas tout à fait au rendez-vous. Donc c'est une histoire un petit peu plus compliquée. Mais après, c'est sûr qu'il y a effectivement une logique, très souvent, il y a une sorte de logique plébiscitaire qui se met en place effectivement à travers le populisme, enfin ce qu'on désigne génériquement comme le populisme.
Est-ce que ça veut dire que le populisme, en fait, sélectionne aussi le peuple à qui il s'adresse, Martial Libéra? Est-ce que, on dit le peuple, mais au fond, on entend bien aussi dans certains populismes, c'est le peuple, mais sans les étrangers, le peuple, mais sans ceux qui ont une autre religion. Est-ce qu'il y a ce côté de sélection? C'est pas tout le peuple, c'est pas tous ceux qui ont le droit de vote, c'est une partie de ce peuple qui va privilégier.
Alors, le populisme est fondamentalement patrimonial. C'est-à-dire que, en réaction aux crises dont il était question tout à l'heure, l'idée du populisme, c'est de protéger ceux qui sont victimes des crises. Mais en opérant, ça a été dit aussi par Sylvain Schurman, un distinguo entre le peuple, au sens classique du terme, les couches populaires, qu'on opposerait à des élites. Le peuple n'étant au fond pas représenté par ses élites, celles-ci travaillant pour elles-mêmes et n'ayant pas le souci de les protéger. Et donc les personnes qui sont directement visées par les formations populistes, par les discours populistes, ce sont les membres de ces couches populaires au premier chef. Il y a très clairement l'idée que au fond, c'est le peuple qui aurait raison, c'est le bon sens populaire qui devrait l'emporter, c'est ces personnes qu'il faudrait représenter, qu'elles ne le sont plus. Alors ensuite, les mouvements populistes, au-delà d'être patrimoniaux, c'est-à-dire protecteurs, peuvent être aussi exclusifs, c'est-à-dire qu'ils peuvent développer des formes de refus de l'immigration qui est considérée comme un autre danger. Certains ont même des accents très clairement xénophobes, et dans ce cas-là, effectivement, les étrangers ne sont pas représentés, ne sont pas destinataires du message. Mmh. Mais vous avez d'autres tendances. Vous avez aussi les mouvements qu'on appelle sociopopulistes, à l'exemple de la France insoumise, sont sur une autre ligne. Et là, ce qui est refusé, ce qui est condamné, c'est bien davantage le capitalisme et son fonctionnement. Et donc, on est sur d'autres logiques. Quand on regarde au niveau européen, on voit aussi que dans les pays du Nord, les mouvements populistes sont aussi très attachés à leur système social, à l'état de droit, à l'état, pardon, providence. Et donc, le populisme accuse au fond, je reviens sur l'Europe, de détricoter leur modèle social, leur état-providence. Donc il y a beaucoup de variations, c'est pour ça que c'est difficile de le cerner. Mais clairement, la cible, c'est la population.
Ouais. Il y a plusieurs populismes. Ouais.
On a un auditeur en ligne, c'est Pierre. Vous êtes à Bordeaux, bonjour Pierre.
Bonjour, bonjour, bonjour. J'entendais votre précédent interlocuteur, on est à peu près sur le même registre de réflexion, mais l'essentiel, si vous voulez... c'est la démocratie. Alors, on avait la démocratie, c'était l'idéal, puisque c'est le peuple, c'est donner le pouvoir de décision au peuple par des systèmes d'élections. Or, aujourd'hui, et d'ailleurs, j'entendais hier soir une émission à la radio où Xi Jinping disait que la démocratie ne donnait pas le pouvoir au peuple. Enfin bon, je vais être plus simple. Oui. Aujourd'hui, la démocratie est en question parce que c'est terrible de dire, mais il y a un déficit culturel général en France. Et alors bien sûr, je suis âgé. Jadis, il y avait une culture populaire. Il y avait une culture du peuple. Aujourd'hui, tout ça est dilué, ça n'existe plus. Dans la jeunesse, par exemple, elle a des centres d'intérêt différents, etc. Et se pose le problème fondamental, c'est est-ce que le peuple est-il capable, et ça c'est beaucoup trop grave ce que je dis, mais le peuple est-il capable d'être souverain?
Pierre, c'est très intéressant ce que vous dites et merci beaucoup d'avoir posé cette question. Je récapitule, le populisme trouve son terrain dans des populations où il y a un déficit culturel, c'est ce que vous dites, Pierre. Sylvain Charmat, je me tourne vers vous, c'est une bonne question. Est-ce que le populisme s'installe là où manque peut-être une culture politique? En fait, qu'est-ce qui séduit, qu'est-ce qui flatte aussi cette identité?
C'est peut-être pas, quand on regarde un peu l'évolution des votes populistes, c'est peut-être pas tant le manque de culture politique qui est frappant que le glissement de certains électorats vers le populisme. Lorsque ces électorats se sentent abandonnés, eh bien il y a une tendance à chercher le leader charismatique, le groupe providentiel, le programme providentiel qui va vous permettre de régler ce que vous estimez être vos problèmes. Pour l'appuyer, on voit quand même, par exemple, qu'un certain électorat qui venait traditionnellement de gauche, où on peut pas dire qu'il n'y avait pas de culture politique, glisse au fur et à mesure des élections vers les formations populistes lorsqu'il estime que la formation politique traditionnelle de gauche n'arrive plus à satisfaire ses ambitions. Donc plutôt que de dire absence de culture politique, je dirais qu'il y a une repolitisation par un autre biais de ces couches qui se sont senties à un moment donné ou à un autre abandonnées par leur parti traditionnel. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point qui fonctionne dans ce qui vient d'être évoqué à l'instant, c'est que ce peuple auquel s'adressent entre guillemets les populistes est un peuple mythifié, glorifié, vous mettez le mot entre guillemets, parfois purifié, avec en fait cette idée très simple qu'il aurait une identité propre qui... Peuple français, peuple allemand, peuple italien aurait une identité propre qui traverse les générations, qui est une espèce de patrimoine commun qu'il faut préserver, sans voir, par exemple, que ce que c'est qu'une nation à un moment donné, c'est un apport multiculturel extrêmement important qui vient de différents horizons. Et donc, Ça fonctionne très bien quand les repères disparaissent. Et les repères disparaissent, comme l'évoquait Martial il y a un instant, lorsque vous êtes dans des situations de crise, de difficulté, d'absence de sens ou de complexité des phénomènes. Les phénomènes comme, on y revient, la construction européenne, comme la mondialisation, comme les questions de souveraineté économique ou pas, ce sont des questions extrêmement complexes. C'est pas, comme le disait un auditeur précédent, les banques qui nous cachent, les entreprises qui nous manipulent. Il y a toujours eu des formes de manipulation, c'est clair. Mais la question est de savoir comment contrôler ces mouvements.
Et on va continuer d'en parler après une petite pause qu'on va marquer tous ensemble dans Je pense donc j'agis. Vous continuez de nous appeler pour nous parler du populisme au 04 72 38 20 23 dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis ou par mail à l'adresse direct@rcf.fr. À tout de suite.
Je pense donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Madeleine Vatel, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
9h30 dans Je pense donc j'agis. Qu'est-ce que c'est pour vous le populisme? Est-ce qu'il vous fait peur? Est-ce que vous comprenez également son succès? Vous venez commenter et réagir au 04 72 38 20 23 ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je suis pour le communisme. Je suis pour le socialisme. Et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi, je ne fais qu'un seul geste. Je retourne ma veste. Je retourne ma veste. Toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste. Je retourne ma veste. Je retourne ma veste. Toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les patries. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Et il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je crie vive les institutions. Je crie vive les manifestations. Je crie vive la collaboration. Non, jamais je ne conteste, ni revendique, ni ne proteste. Je ne sais faire qu'un seul geste, celui de retourner ma veste. De retourner ma veste, toujours du bon côté. Le crack de tous côtés. À la prochaine révolution, je retourne mon pantalon.
Vous avez reconnu la famille Dutronc, Jacques et son fils Thomas Dutronc et ce tube l'opportuniste.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et toujours avec nos trois invités jusqu'à 10h. Benoît Hervé-Léger, je rappelle que vous êtes journaliste et chef de rubrique de la revue Projet. Sylvain Schurmann, vous êtes chercheur, professeur émérite à l'Université de Strasbourg. Et Martial Libera, professeur d'histoire contemporaine à l'IUT Robert Schumann de l'Université de Strasbourg. Un message d'un auditeur dans le groupe Facebook, je pense, donc j'agis. C'est Jean-Louis qui nous dit, je vais retrouver le message. Le populisme, c'est dire que l'homme ou la femme providentielle va nous sortir de la crise après avoir tout essayé. Il prend l'exemple d'une phrase qu'il entend souvent, on a tout essayé sauf le Rassemblement National, par exemple. Est-ce qu'il y a une forme de dernier espoir, de désolation même? Je me tourne vers vous peut-être, Martial Libera.
Le dernier espoir, je ne sais pas, mais il y a effectivement un discours populiste qui peut être attractif à un certain moment. Cela a été dit, c'est un discours qui propose des réponses simples, souvent à des problématiques complexes, mais c'est aussi un discours qui a une grande force, parce que les partis populistes se positionnent à côté des autres formations politiques, et ces formations sont violemment critiquées. On les accuse au fond d'être incompétentes, de tirer profit de leur situation, de ne travailler que pour elles. Et cette promesse-là peut aussi porter. Et puis il y a aussi l'idée que les formations populistes souvent trouvent des boucs émissaires aux crises ou aux problèmes, à ces problèmes qui arrivent de l'extérieur. Alors l'Union européenne est typiquement un de ces boucs émissaires. Les populistes considèrent que l'Union européenne, et ça peut séduire, ne protège pas les citoyens européens de la mondialisation, mais qu'au contraire, et je mets des guillemets à ce que je vais dire, les élites européennes apatrides mondialisées font partie d'une espèce de grand complot, hein, et participent de la diffusion de la mondialisation qui détruit le tissu social, le tissu économique, etc. Donc il y a un discours, c'est vrai, et une posture anti-système qui peut porter, qui peut frapper, qui peut attirer. Et je crois qu'une des forces des formations populistes, mais peut-être cette question sera-t-elle évoquée plus tard, c'est aussi de savoir communiquer et de savoir toucher les publics cibles. Hein. On voit bien aujourd'hui que les formations populistes sont très en pointe sur les médias sociaux numériques, que ce soit TikTok, Instagram, d'autres, et que leurs leaders s'y affichent très régulièrement et arrivent à séduire une partie de la population, notamment les jeunes, qui pendant très longtemps ont été réfractaires à tous les types de formations qui étaient, entre guillemets, extrémistes, de droite ou de gauche.
Sylvain Schurmann, je vous propose qu'on fasse un tour d'horizon des formations populistes, ou en tout cas de ceux qui sont arrivés au pouvoir dans l'Union européenne. Si on fait un petit tour, quels sont les pays qui ressortent, dans quel pays le populisme est arrivé au pouvoir, en tout cas un régime populiste est arrivé au pouvoir, parfois sous forme d'une coalition avec d'autres pour pouvoir gouverner. Qu'est-ce que vous identifiez, vous, justement, aujourd'hui? Alors qu'ils sont, c'est ça le paradoxe, parce qu'ils sont aussi dans l'Union européenne. Ils ont critiqué Bruxelles, ils ont critiqué l'Europe, mais ils
sont dans l'Union européenne, mais ils ne la quittent pas quand ils arrivent au pouvoir. Peut-être tout de suite le dire d'emblée. Disons que là où ces formations sont au pouvoir, on peut prendre par exemple l'histoire de la coalition italienne. Là où elles vont arriver au pouvoir, c'est aux Pays-Bas, puisque l'accord de gouvernement est en train de se négocier. Alors ensuite, faut-il considérer la Hongrie de Viktor Orban comme un régime populiste? Lui se considère plutôt comme un régime illibéral, mais il y a des formes de populisme flagrantes dans la façon dont Viktor Orban exerce le pouvoir. Le premier ministre slovaque qui vient de faire l'objet d'un attentat relève aussi de cette même veine. Donc on trouve des populismes au pouvoir en Europe méditerranéenne à travers l'Italie. On en trouve en Europe centrale, Hongrie, Slovaquie, le régime tchèque est lui aussi proche de ces mouvances. On en trouve en Europe du Nord ou du Nord-Ouest, Pays-Bas où c'est en train de se négocier, ou alors l'accord de gouvernement qui lie actuellement les formations au pouvoir en Suède est tenable grâce aussi à l'appui des formations populistes. Je le disais il y a un instant, partout, vous observez quand même que quand ces formations arrivent au pouvoir, elles ne quittent pas l'Union européenne. Elles critiquent, elles essayent d'obtenir des avantages. Même d'une façon générale, quand on regarde Giorgia Meloni, elle participe au Conseil européen, au Conseil des ministres, aux structures européennes, où elle défend les intérêts de l'Italie. Et peut-être que ces formations se rendent compte que quand on est, j'allais dire, dans le cœur du réacteur, les slogans et l'appel aux émotions ne suffit plus pour gérer le pays. Quand je suis à la tête d'un État comme l'État italien et que le plan de relance européen qui a été adopté par la Commission fait de moi le premier bénéficiaire de l'aide européenne avec, je crois, si mes souvenirs sont exacts, près de 200 milliards d'euros sur les années à venir, je commence à réfléchir autrement à ma question des frontières et à ma question de l'intégration. Quand j'aborde la question des migrations qui a été au cœur quand même du succès de Madame Meloni en Italie, je m'aperçois peut-être que les questions sont un peu plus complexes que ça. Il y a des migrants secourus par des bateaux italiens, ok, je peux intervenir, mais il y a quantité d'autres bateaux relevant d'ONG dans ce bassin méditerranéen qui se portent au secours, et qu'est-ce que je peux faire en termes d'opposition à leur arrivée quelque part sur le sol européen? Et donc peut-être qu'il vaut mieux, et c'est ce qu'elle a fait, que je me rallie à un pacte migratoire européen négocié, discuté avec d'autres pays. Vous avez encore un exemple comme ça de ces comportements où je critique, mais quand je suis dedans, j'essaye de tirer avantage pour mon pays. C'est le comportement d'Orban qui va jusqu'au bout de la ligne rouge sans jamais la franchir pour pouvoir continuer à bénéficier des aides européennes. Alors là, récemment, il vient de bloquer l'aide européenne à l'Ukraine. Et on peut être sûr que ça, c'est un moyen de pression et de négociation pour que l'Union européenne continue aussi à s'intéresser à la réalité hongroise et à l'aide en direction de la Hongrie. Donc, c'est une fois qu'ils sont au pouvoir, c'est pas aussi simple que ça pour ces formations. On verra un peu comment va se comporter maintenant le nouveau gouvernement suédois par rapport à ces questions, ou le futur gouvernement néerlandais. En réalité, arrivé au pouvoir, on s'aperçoit aussi des avantages de l'Union européenne, notamment ce qu'ils dénonçaient tout le temps, notamment des capacités de protection de l'Union européenne. Essayez de retrouver seul votre souveraineté économique. Je vous promets bien du plaisir, le Brexit devant faire réfléchir à certaines choses. Alors le Brexit, c'est certainement pas la catastrophe qui avait été annoncée par ceux qui ne souhaitaient pas que le Royaume-Uni quitte, mais c'est pas non plus le paradis annoncé par ceux qui voulaient qu'on quitte. Bien au contraire. Bien au contraire, ces performances sont quand même en dessous de celles même de la zone euro aujourd'hui. Donc ça, ce sont des éléments qui sont sur la table et qu'il faut bien regarder en face. Le Royaume-Uni devait signer du jour au lendemain des accords de commerce avec la planète entière qui en faisait le cœur quasiment de l'économie mondiale. Où est-ce qu'on en est? Il n'y a pas d'accord de libre-échange signé par le Royaume-Uni.
Ça fait partie de ce que disent les détracteurs, d'ailleurs, des partis un peu populistes, en disant, voilà, ils critiquent le système, mais ils en profitent également. Amadou nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Amadou, bonjour.
Bonjour, excuse-moi, j'interviens sur vos invités, les journalistes, ce qu'ils ont dit. Moi, je ne confonds pas cette représentation le populisme, c'est le peuple. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. La démocratie, c'est la liberté politique. Il y a plusieurs démocraties, la démocratie est représentative. Quand on choisit la démocratie, il n'y a pas la morale, l'autre, il est libre de dire ce qu'il pense. Quand il s'agit du peuple, c'est le peuple qui choisit, c'est le patrimoine. Ça n'a rien à voir même avec la religion. La religion, la liberté religieuse, la doctrine, c'est une doctrine religieuse qui n'a rien à voir avec la doctrine politique. Donc le populisme, c'est le peuple, comment dire, en France, ici, le président de la République, quand il fait quelque chose, il ne consulte pas. Donc on dit qu'on est démocrate, où se trouve la démocratie? Le peuple, il devrait intervenir, leurs opinions. C'est ça qu'on appelle la démocratie. La démocratie, c'est une valeur de la liberté. Il y a plusieurs valeurs. Il y a un régime politique qui n'a rien à voir avec le peuple.
C'est très intéressant.
Une bonne continuation en chacun son point de vue.
Eh ben, merci beaucoup, Amadou. On vous entendait mal. Je sais pas, vous étiez peut-être à côté d'un circuit de Formule 1, mais en tout cas, voilà. Je pense qu'on a quand même entendu le cœur de votre remarque. Je me tourne vers vous, Benoît Hervieux-Léger. Finalement, et ça rejoint un peu ce que nous disait Amadou, mais si on parle de valeurs, quelles valeurs peut-être sont menacées par le populisme? Est-ce que il y a un danger derrière tout ça?
Ce qui est intéressant, c'est que on pourrait renverser un petit peu la formulation, c'est-à-dire que le populisme. Alors, j'essaie de relier avec l'analyse d'à l'instant de Sylvain Schirmann sur le fait que effectivement, il y a l'épreuve du pouvoir et il y a beaucoup de choses qui changent. Et soit effectivement on se cabre, soit effectivement on se fond à des. Enfin, quand je dis on, c'est-à-dire des formations dites populistes qui arrivent au pouvoir, etc. En même temps, se fondent effectivement au jeu institutionnel et à des compromis politiques qui sont évidemment compliqués à obtenir et en même temps indispensables dans des sociétés, je veux dire, aussi complexes et fragmentées que les nôtres. Par ailleurs, sur la question des valeurs, alors ça, c'est effectivement c'est un élément, et notamment aujourd'hui dans les formations populistes européennes, avec effectivement l'invocation de certaines valeurs qui seraient en danger, enfin qui seraient mises en danger par par la mondialisation, par les interdépendances nouvelles qu'il y a dans notre monde. Et ce qui me frappe beaucoup, et notamment par exemple à l'est du continent européen, où on voit très bien comment effectivement que ce soit ce qu'on appelle le groupe de Visegrad, enfin des pays comme effectivement la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, bon la Pologne de l'époque du PiS, qui étaient à la fois, c'est-à-dire, il y avait quand même le souvenir de l'époque de la domination communiste. Alors bon, c'est quand même un spectre par rapport à la Russie qui fait que, on se méfie quand même du grand frère russe. Enfin bon, on sait quand même, on se souvient quand même de ce qu'il a fait. Mais de l'autre côté, par exemple, effectivement, on se réfère aussi, et par exemple, c'est le cas d'Orban, on prend quand même un peu modèle sur la Russie, par exemple, sur effectivement une espèce de conjonction entre politique et religieux, par exemple, face à la décadence de l'Occident, à des lois qui seraient émancipatrices pour les populations, pour les minorités LGBT, ou la question de la loi sur la fin de vie, par exemple, peut provoquer effectivement les mêmes réactions, avec effectivement l'idée que l'Occident a perdu ses valeurs et qu'on va les recharger. Donc c'est vrai que le discours des formations populistes intervient beaucoup, effectivement, notamment sur un terrain culturel, sur un terrain d'une histoire reconstruite, qui crée effectivement des mythifications, Ouais.
Et on a tendance à observer aussi une limitation de la liberté de la presse, une restriction notamment au niveau du pouvoir des juges. Est-ce que tout cela, c'est aussi cela que menace le populisme, Sylvain Schirmann?
Effectivement, parce que c'est ça même le concept d'illibéralisme, c'est de considérer que parce que le peuple m'a donné le pouvoir, je suis légitime pour remettre en question, y compris un certain nombre de valeurs de base. Par exemple, dans la démocratie dite représentative, arriver au pouvoir ne me permet pas de toucher à l'indépendance de la justice. Dans l'approche illibérale des choses, arrivé au pouvoir légitimé par la population, j'ai la possibilité de toucher à tous les éléments du pouvoir, y compris à l'indépendance de la justice. Donc, j'essaye d'aller le plus loin possible, parce que je suis quand même membre de communautés internationales comme l'Union européenne, comme le Conseil de l'Europe, qui garantissent ces valeurs. Donc j'essaye d'avancer le plus loin possible, mais la menace, elle est réelle, et c'est là que on touche à la dimension, j'allais dire, référendaire ou plébiscitaire du populisme. Cette oui. façon de s'appuyer sur le peuple et de dire « je donne le pouvoir sur le peuple » privilégie directement tout ce qui est contact direct à travers référendum, plébiscite. D'ailleurs, regardez les régimes populaires qui ont existé, populistes qui ont existé à travers l'histoire. Tous ces régimes se sont toujours appuyés sur ça. Le plébiscite, Péronne, c'était le cas. le référendum, donc le contact direct. Et une fois que j'ai la majorité grâce à ce contact, je m'estime légitime pour tout remettre en question, y compris les institutions d'équilibre, y compris les institutions de protection du citoyen, et c'est en ça que c'est dangereux.
Oui, ça a des conséquences de voter pour un régime, ou en tout cas un candidat dit populiste, Benoît Hervieux-Léger. Quelles conséquences? Vous êtes plus intéressé par tout ce qui est Amérique centrale, Amérique latine aussi. Qu'est-ce que vous diriez des dangers de ce que représente le populisme une fois qu'il est au pouvoir? Je pense à l'Argentine, là, notamment avec l'élection de Javier Milei.
Alors, il y a l'élection de Javier Milei. Bon, c'est-à-dire qu'on voit effectivement, et bon, on l'a vu avec Bolsonaro aussi au Brésil. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, alors, avec évidemment des conséquences parfois plus limitées, par exemple, même dans le cas d'un Bolsonaro, c'est-à-dire qu'il n'a jamais pu démanteler le tribunal suprême fédéral, comme par exemple Orban l'a fait avec les juges, ou Le PiS en Pologne l'a fait aussi avec les magistrats. Souvenons-nous, d'ailleurs, ça avait créé de vives protestations. Il y a des nuances hein, quand même. Bon, selon les contextes, selon les pays, selon les dirigeants. Mais on voit par exemple, si on prend encore une fois l'Europe de l'Est, c'est-à-dire qu'on a bien vu effectivement ce que décrivait Sylvain Sherman à l'instant, c'est-à-dire effectivement avec l'idée qu'il y aurait une espèce de pouvoir des juges plus ou moins occulte et que les juges n'étant pas élus, c'est au pouvoir exécutif, lui, légitime. De réduire ce contre-pouvoir. Bon, sur effectivement la liberté de la presse, regardez les prises de contrôle qu'il y a eu en Hongrie, en Pologne, etc. à l'époque du PiS. Bon, alors, de même, dans le cas brésilien et argentin, par exemple, récemment, où on peut aussi remonter à Trump, qu'on n'a pas encore cité. Bon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une prise de contrôle. Alors, s'agissant des médias, par exemple, l'un des grands gestes de Javier Milei en 5 mois de pouvoir a été effectivement de décréter la fermeture de l'agence de presse Telam, qui avait été d'ailleurs créée en 1945 sous le gouvernement de Perón. Bon, de la même manière, il y a des attaques très vives actuellement contre les libertés académiques. Bon, et ça, les milieux intellectuels, avec l'idée que les universités, notamment publiques, seraient des officines de propagande, et avec une rhétorique de la guerre froide, c'est-à-dire, c'est des officines communistes, gauchistes, etc., donc il faut absolument les contrôler. Donc là, effectivement, en termes de réduction, c'est-à-dire l'idée que le débat public doit se réduire d'une certaine façon à une espèce de parole de communion entre le dirigeant et le peuple, quel est-il ? Enfin, le peuple tel que le conçoit le dirigeant, ça, effectivement, c'est un véritable danger, et avec tous ses corollaires, c'est-à-dire en matière de recherche, en matière d'information, en matière, effectivement, de discussion, de débat politique, que malgré tout, qu'on le veuille ou pas, la démocratie représentative permet avec l'expression des différentes tendances de ce qu'on appelle l'opinion. Et ça, il y a un vrai danger de ce côté-là, oui.
Qu'on parlait de débat, Melchior, justement, la question du débat aujourd'hui.
Mais c'est très intéressant. D'ailleurs, on a Max qui nous a envoyé un message. Je vous le lis. Le populisme est aussi devenu un anathème pour disqualifier un adversaire politique ou un mouvement populaire. Ça permet d'éviter toute argumentation puisque l'autre est tout de suite rejeté hors course. Il prend quelques exemples avec des mots en isme, écoterrorisme à propos de la désobéissance, l'islamo-gauchisme à propos de la tolérance et l'antisémitisme. Cette circonstance en ce moment, dès que l'on critique Israël, bref, on tue le débat dans l'œuf. Je connaissais pas cette expression, mais je trouve qu'elle est de circonstance. Qui veut commenter ça? Peut-être vous, Martial Libera. Est-ce que finalement le populisme empêche de débattre? Martial.
Bon, vous avez raison sur le fait que celles et ceux qui appartiennent à des mouvements populistes en général ne se reconnaissent pas comme tels, parce que souvent, effectivement, il y a une notion péjorative et un peu discriminante quand on qualifie un mouvement de populiste. Alors on a vu dans les définitions qui ont été apportées ce matin que ce n'est pas le cas, hein, qu'il s'agit simplement de décrire comment fonctionne un mouvement, quels sont ses ressorts, etc. Si vous me permettez de prendre le cas de la France, je n'ai pas l'impression que les mouvements populistes soient discriminés. Quand je vois les médias organiser un face-à-face pour les élections européennes entre Jordan Bardella et Gabriel Attal, je n'ai pas l'impression que ces mouvements, que le mouvement, le Rassemblement National, soit brimé. Quand j'observe tout au long de la campagne que chacun se positionne par rapport au Rassemblement national, je n'ai pas non plus l'impression que celui-ci soit absent des débats. Et on est même dans une situation paradoxale où on a l'impression que l'élection se jouerait entre une majorité présidentielle et le Rassemblement national. Donc, en tout cas, pour la France, on est loin d'avoir cet ostracisme que certains redoutent. Après, le terme, effectivement, de populisme a une consonance péjorative, hein, ancienne.
Benoît Hervieux-Léger, on vous voyait vouloir réagir.
Oui, parce que là-dessus, il y a, alors effectivement, outre le fait effectivement que le populisme est justement aussi ce mot attrape-tout qui permet de dire que l'adversaire est démagogique, qu'il a des visions fantasmées, etc. Bon, ça effectivement, ça peut être un moyen commode d'arrêter le débat. Ceci dit, là où je rejoins effectivement Martial Libéra, c'est que outre le danger effectivement que pourrait faire courir l'arrivée d'un certain nombre de mouvements, et notamment bon, côté européen, à l'extrême droite de l'échiquier politique, en matière de liberté publique, en matière d'état de droit, en matière d'équilibre des pouvoirs, en matière de débat intellectuel et de débat public. Bon, il y a aussi, et dans le cas de la France, ce qui est très net, c'est qu'il y a même, disons, une influence aujourd'hui, effectivement, de ce discours-là sur l'ensemble de la classe politique. Regardez comme le parti, par exemple, la formation Les Républicains, qui était la droite gaulliste, post-gaulliste, aujourd'hui s'extrême droitise dans son discours, avec des sorties d'Éric Ciotti, son président, qui n'ont pas grand-chose à envier, il me semble, à du Éric Zemmour ou à du Marine Le Pen. C'est à peu près... Bon, il y a des nuances, bien sûr, mais... Malgré tout, c'est quand même des discours qui sont devenus très proches. Bon, de la même manière, si vous voulez, je me permets, ça va peut-être en faire hurler plus d'un, mais je trouve qu'un Gérald Darmanin, dans sa façon de concevoir l'ordre public et dans sa geste politique, répond quand même. Enfin, j'imagine mal, par exemple, une Marine Le Pen au pouvoir faire tellement différent. Je pense que, et de la même manière, vous avez vu comme ce discours a été capté, comme il est relayé aujourd'hui, par effectivement le même RN qui pendant des années se plaignait en gros de la coalition des médias contre lui, aujourd'hui quand même se retrouve avec, alors même s'ils sont plutôt tendance zémouriste ou Marion Maréchal, mais les médias du groupe Bolloré sont quand même très nettement sur ce discours là donc effectivement ils sont absolument pas absent des circuits institutionnels classiques. Bon.
Martial Libéra, vous avez travaillé justement, et ce sera la dernière question, sur l'image, sur le travail de l'image, du discours de ces personnes, de ces leaders en quelque sorte du populisme. Qu'est-ce qu'ils développent pour séduire justement, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou à travers des interventions télévisées? Qu'est-ce que développent finalement ces leaders pour séduire?
Ça a déjà été un peu évoqué. Peut-être quelques précisions. D'abord, c'est très fluctuant avec le temps. Si vous prenez un exemple, la façon dont... le Front National puis le RN se positionnent par rapport à l'Europe, on voit des phases. Hein, à la phase, j'allais dire, où l'Europe est fustigée, où il faut la quitter, où le Frexit est d'actualité après le Brexit, où il faut quitter la zone euro, on voit que progressivement, on passe du refus classique d'Europe à plutôt l'idée qu'il faut construire une autre Europe, hein, l'Europe des nations, c'est-à-dire au fond détricoter l'organisation internationale qu'est l'Union européenne pour arriver à des liens de coopération, mais à plus d'interdépendance, à mettre fin aux politiques communes. Mais ça, c'est l'exemple sur l'Europe du Rassemblement national. Mais si vous voulez, l'essentiel du discours, c'est un discours qui se veut protecteur. Et donc, on doit se protéger par rapport aux influences extérieures. Il faut, comme l'a dit tout à l'heure Sylvain Schirmann, revenir à ce peuple idéalisé et fantasmé, revenir à un âge d'or que les autres partis politiques n'ont pas su protéger, faire en sorte que les populations retrouvent de la sécurité économique, qu'elles retrouvent les fondements de l'identité, etc. C'est ça la base.
Merci, merci beaucoup Martial et Sylvain, Martial Libera, Sylvain Schirmann, auteur de Idées reçues sur l'Union européenne. Vous étiez à Strasbourg, vous êtes professeurs tous les deux. Merci Benoît Hervieux-Léger, journaliste, chef de rubrique de la revue Projet.
Avec lequel on a le plaisir de travailler. Oui, exactement. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Madeleine également pour cette émission. Dans un instant, toujours un plaisir d'être avec vous. On va parler de la culture populaire, la culture pour tous, avec vos appels au 04 72 38 20 23. À tout de suite.